On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Ma seule préoccupation, c'est d'évoluer sans cesse. C'est un art à part entière, la pâtisserie. Parce que justement, c'est l'expression de ce qu'on est. Et alors évidemment, la technique est fondamentale, mais au-delà de ça, c'est une piste de décollage sur laquelle on s'appuie pour s'envoler et faire passer des sensations importantes.
Saint-Jacques et langoustine aux agrumes, cappuccino d'estragon. Donc pour les arrivages, s'il y a des curieux, les Saint-Jacques, c'est Normandie, les langoustines, c'est Bretagne.
Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, où sont servis, je ne le savais pas, 92 000 à 95 000 repas par an, composés de produits 100% français.
Enfin, j'aime quand c'est bon, quoi. Quand c'est bon, ça m'éclate.
Un grand pâtissier et un grand cuisinier réunis sur le plateau dont on va déguster. Un plateau exceptionnel installé au cœur de Radio France Fête le Livre. C'est la 7e édition de cette manifestation qui célèbre ce week-end à la Maison de la Radio le livre et la lecture. Nous sommes en direct depuis le mythique studio 104 de la Maison de la Radio devant un public. On va tester l'humeur de ce public. Ouais, ouh. Il est chevouillant, le public du studio 104. Il va falloir d'ailleurs être attentif, cher public, dans la salle et à la maison, derrière votre poste de radio, car il y a des livres à gagner, des livres de cuisine, à condition évidemment de répondre à quelques questions de culture culinaire. Tout au cours de cette émission, on va vous les poser régulièrement, et à vous de vous attirer à vous un micro. Notre premier invité, oulala, plus rien ne l'arrête. Une nouvelle boutique de pâtisserie à Paris, avec une file d'attente impressionnante, des créations qui font saliver les becs sucrés du monde entier et des démonstrations culinaires à succès sur les réseaux sociaux, dont est inspiré d'ailleurs un nouveau livre qu'on va découvrir dans un instant. C'est Philippe Contisini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. D'autant que vous êtes arrivés les bras chargés de pâtisserie, on va en profiter sur ce plateau et dans la salle. Il y a de belles choses là, j'aperçois notamment une tarte pralinée noisette qui me fait très très envie. J'imagine un peu de chocolat également dans la pâte, c'est bien
Oui, absolument.
Hein. Mon deuxième invité est l'une des toques françaises les plus influentes, tout simplement. Il voyage partout dans notre pays et dans le monde, où l'une de ses missions est d'incarner l'excellence de notre gastronomie. C'est le chef de cuisine du Palais de l'Élysée, des cuisines, car il y en a plusieurs, et il porte d'ailleurs le col tricolore de meilleur ouvrier de France, Guillaume Gomez, bonjour.
Bonjour.
Vous signez Cuisine, leçon en pas à pas, c'est quand même une grosse bible de plus de 500 pages aux éditions Duchesne. Il y a également la version pour les enfants, toujours aux éditions Duchesne. On va en parler avec vous et on va même expliquer quelques-unes de vos recettes. Pour mettre leur grain de sel et pour parler livre de gastronomie, mes deux chroniqueurs du jour sont Elvira Masson et Jérôme Gagnez.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Elvira Masson.
Une question simple. Où sont les femmes?
Ah, au fourneau, vous voulez dire?
On verra.
Mais oui, au fourneau, mais justement, où sont les femmes dans les fourneaux des grands restaurants? C'est une très bonne question que vous allez vous poser à travers un livre. Jérôme Gagnez.
Mon histoire commence dans une caravane pendant les vendanges.
Ah, on n'en sait pas plus, hein?
Vous en saurez plus tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle. La fine équipe dont va déguster Laurent Thomas, Nadia Chougui, Djoubaka, la programmation musicale, et un grand merci aux équipes techniques de Radio France. Pour consulter nos infos, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission, le chemin est simple. Franceinter.fr, à la page, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Des masterclass, des rencontres, des lectures, des ateliers, plus de 120 auteurs en dédicace. Il fait bon, fêter le livre avec Radio France au cœur de la Maison de la Radio pendant tout le week-end. Ça dure jusqu'à ce soir, 19h. Nos deux invités ont aussi envie de fêter le livre, et notamment le livre de cuisine. J'ai demandé à chacun de vous, messieurs, Philippe Contisini et Guillaume Gomez, de choisir un livre qui vous a marqué, un livre qui vous a accompagné pendant votre carrière de pâtissier ou de cuisinier, ou que vous avez toujours près de vous. Philippe Contisini.
En fait, il y en a deux. C'est quand j'étais apprenti, avant d'être apprenti, mes parents étaient restaurateurs et moi je voulais faire des gâteaux. Donc c'est le bouquin de, à l'époque, hein, Faites la pâtisserie comme le nôtre. Et c'est avec ça que j'ai commencé, en fait. Et ça, c'est un bouquin qui m'a marqué. Et puis le deuxième, c'est, en fait, il y en a deux, mais c'est un bouquin de 1930 et un autre de 1920, je crois, qui sont des bases. Voilà. Ginette Mathieu, c'est 1932, et l'autre, c'est un petit peu avant, où on parle de tous les produits, le veau, les légumes, etc., mais d'une manière un peu particulière pour le grand public. Et ça, j'ai trouvé ça top, quoi. Voilà. C'est deux cadeaux, en fait, qu'on m'a fait, et je trouve ça génial.
Ils sont un peu abîmés, quand même.
Ils étaient très abîmés quand on me les a offerts, et moi, je les ai un petit peu plus abîmés. Ouais.
Et Gaston Lenôtre?
Ah ben Gaston Lenôtre, il est forcément abîmé, il est sali.
Il est très très orange.
Comment?
Très très orange. Montrez un peu la couverture à notre public.
Oui.
Ça, on n'a pas la date exacte, si?
70, exact.
Oui, année 70, j'imagine.
Je vais te dire, ça a été copyright.
Oui, par là. On va chercher.
Premier, 1976, ils disent.
Ah oui, 1976, on est en plein dedans, effectivement. Gaston Lenôtre, en un mot, Philippe Contisini, il incarne quoi pour vous?
Il incarne plusieurs choses. D'abord, évidemment, la démocratisation, vraiment, de la pâtisserie. Il y a eu des grands, grands pâtissiers à cette époque-là, mais c'est vraiment le seul qui s'est fait connaître du grand public et qui voilà, a mis à la portée de tout le monde, en tout cas de beaucoup, la pâtisserie, comme elle commençait à bouger beaucoup à ce moment-là.
C'est ça.
Dans les années 70, et il n'y a pas, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a profondément marqué notre métier, comme Antonin Carême, au 19e siècle. Voilà, c'est Antonin Carême a le nôtre, et puis demain, on verra bien, peut-être toi, peut-être Elvira.
Vous faites partie avec Pierre Armé et quelques autres, mais vous n'êtes pas très nombreux, évidemment, de ces héritiers directs. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Contisini. Un livre que je tiens à la main, oui. C'est le livre coup de cœur de Guillaume Gomez. Il n'est pas tout récent, il date de 2012, oui. Mais je partage ce coup de cœur avec vous. De quoi s'agit-il?
Alors, quand on m'a demandé de choisir un bouquin, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Enfin, moi, je collectionne les livres de cuisine. Il y en a énormément qui m'ont accompagné pendant ma carrière. Et je voulais pas vous parler des Auguste Escoffier, des Gringoire et Saunier.
Même si j'imagine qu'il y en a plein dans vos bibliothèques.
Bien évidemment, qui sont là et qui accompagnent en fait tous les cuisiniers qui ont démarré dans ce métier depuis des générations et des générations et qui vont continuer de le faire. J'ai réfléchi à un bouquin qui m'a vraiment marqué ces dernières années. J'en achète énormément et j'ai découvert celui-ci. Ça a été ma première rencontre avec l'illustratrice Aurélie Sartre, avec des textes d'Alain Cohen, qui est un vrai sourceur de produits, et c'est notamment
de fruits et légumes,
voilà, et c'est lui qui nous source les meilleurs producteurs de France pour nous amener les meilleurs produits sur nos tables, et c'est grâce à lui qu'on a découvert notamment Bachès et des gens comme ça. Et c'est vrai que il a un verbe et une façon de parler des produits qui m'a touché. Ce bouquin, je l'ai lu quand ils me l'ont donné, comme je reçois beaucoup de livres. J'en achète énormément aussi, mais je l'ai pris, je l'ai regardé déjà parce qu'il était original, avec des dessins, des illustrations qui sont magnifiques, pas des photos, et on se l'approprie un petit peu plus facilement. Et du coup, j'ai commencé à parcourir les textes, et il a une façon de parler des produits et des producteurs qui est unique, et c'est vraiment un bouquin qui m'a touché, et suite à ça, j'ai eu envie de travailler je travaillais déjà avec Alain Cohen, et de travailler avec Aurélie, elle a illustré mon premier bouquin, Le carnet du chef Gomez.
Avec une démarche effectivement éditoriale et artistique tout à fait originale, les dessins d'Aurélie Sartre, et les textes d'Alain Cohen, et c'est un voyage dans 14 maisons de cuisine.
J'ai croqué un chef, parce que je crois qu'on n'a pas dit le titre du livre.
Oui, c'est J'ai croqué un chef.
J'ai croqué un chef, parce qu'à chaque fois,
ça peut être utile.
Elle dessine, elle croque le chef, et l'univers en cuisine, et un produit, et autour de ça, des recettes.
Et on y retrouve notamment Frédéric Anton du Pré-Catelan, Éric Fréchon au Bristol, David Radjebe, l'assiette rue du Château, 14e arrondissement. Voilà, un très beau voyage.
Alain Pécouret,
absolument. Un très beau voyage dans la cuisine française. Il est temps de vous faire gagner un premier livre. On fait gagner 3 exemplaires dont va déguster la France notre encyclopédie de 430 pages aux éditions Marabout et Radio France. Un livre à gagner dans le public, on va vous tendre le micro dans un instant. 2 livres à gagner à la maison, à condition à la maison, car il y a beaucoup de monde évidemment qui nous écoute, à condition de nous envoyer un mail avec votre nom, votre adresse postale, très important, sinon on ne peut pas vous envoyer le livre, et évidemment la bonne réponse. L'adresse de notre mail est la suivante, on va déguster tout attaché à radiofrance.com. On va déguster à radiofrance.com, on choisit les 2 auditeurs les plus rapides. Attention, question, nous évoquons dans notre encyclopédie la plus célèbre recette du cinéma français.
Préparez votre pâte dans une jatte plate.
Mais elle chante juste en plus.
Je me suis pas mal entraînée. Ce
incroyable.
Matin.
Bravo. Bravo, Elvira. Ah oui, félicitations. Waouh. Impressionné. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle chante cette chanson depuis l'âge de 7 ans, évidemment. Hein, vous la connaissez par cœur. Alors on va pas vous demander le titre de cette chanson, ce serait bien trop facile. Tout le monde a reconnu le Cake d'amour, composé par Michel Legrand, interprété par Catherine Deneuve dans le film Peau d'âne de Jacques Demy, 1970. Une question un peu plus piégeuse. Combien de peaux d'âne, évidemment on ne crie pas la réponse, sinon disqualification. Combien de peaux d'âne utilise pour sa recette de son cake d'amour? Quelqu'un a-t-il la réponse? On peut lever le... Ou déjà, alors on va tendre le micro. La réponse en musique. Soyez attentifs, on se retrouve juste après.
Préparez votre pâte dans une jatte plate, et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de
Podane, qu'on entendait de façon un peu hachée dans le public, hein, vous râlez, vous avez raison. Mais en revanche, on nous dit qu'évidemment, les auditeurs derrière leur poste de radio, ça se passe très bien pour écouter Podane. Est-ce que pour autant on a la réponse? Attention, je repose la question. Combien de Podane utilise pour la recette de son cake d'amour? Vous vous appelez comment?
Bonjour, je m'appelle Clémentine.
Bonjour Clémentine.
Il faut chanter la réponse, hein.
Ah oui, vous l'avez pas précisé.
ajoutez quatre frais. C'est ça?
Bravo!
Bravo
Clémentine!
Bravo!
On va déguster la France. C'est pour vous. Vous viendrez chercher votre exemplaire dédicacé tout à l'heure. Merci beaucoup. Radio France, faites le livre. France Inter, faites la gastronomie. On va déguster en direct depuis le studio 104 avec deux invités globetrotteurs qu'on a quand même réussi à coincer. J'ai bien cru que Philippe Contissini n'arriverait pas jusqu'à ce plateau puisque vous êtes en jet lag complet.
Ah, je suis décalqué. Ouais.
Vous étiez où?
Je reviens du Japon, je suis arrivé hier soir.
Oui.
Et je suis vieux maintenant, hein. J'ai plus 30 ans, donc ça me décale complètement, quoi. Je suis défoncé.
Parce que vous êtes un monstre de la pâtisserie au Japon, vous avez déjà ouvert une première boutique et vous y étiez pour en ouvrir une autre.
Absolument, oui. Oui, tout à fait. Et je suis ravi parce que ça marche bien, ça cartonne, les gens sont contents et je parle toujours pas japonais, mais c'est bien.
Où ça, au Japon?
La première est à Ginza, en fait, dans le grand magasin qui est magnifique, Ginza 6. Mm-hmm. Là, j'ai 40 mètres de linéaire et le prochain sera dans le quartier de Shibuya.
Est-ce que nos amis becs sucrés japonais ont droit à ces petites pièces d'orfèvrerie qu'on a sous les yeux? Il y a cette tarte évidemment pralinée, noisette, il y a également ce que vous appelez des boule cakes.
Oui, absolument, oui.
Le principe d'un boule cake?
Le principe d'un boule cake, en fait, c'est...
Faut imaginer quelque chose de très sphérique, par définition.
De très?
Sphérique.
Ah, oui. Vous êtes perspicace, monsieur Baudry.
Oui.
Et donc c'est sphérique, comme l'a dit Bravo. Vous avez gagné un livre que vous pourrez lire et dédicacer. Et en fait, l'intérêt des boule cakes pour moi, c'est d'abord que ça se mange facilement. Et surtout, on le voit d'ailleurs dans les cakes qui ont été coupés, c'est extrêmement, extrêmement dense, mais extrêmement fondant. Et donc comme c'est dense, ça prend toute la bouche, et ce qui permet d'avoir le goût longtemps en bouche. Et en fait, j'adore ça, quoi.
J'ai un cobaye consentant, ou une cobaye consentante à ma gauche, elle s'appelle Elvira Masson. Les sucreries, ou plutôt la pâtisserie, ça le sucré, connaît. Ça te connaît?
Là, je me suis précipitée sur donc cette...
Ça sent le marron, ça.
Ça sent le marron.
Alors?
Qu'est-ce que c'est bon, ça. C'est pas trop sucré. C'est sucré juste comme il le faut, comme vous le faites habituellement.
Est-ce que la promesse du...
C'est
du,
très très long en bouche.
Du fondant orgiaque, oui.
C'est d'un fondant orgiaque. En dehors d'être sphérique, c'est d'un fondant orgiaque.
Guillaume Gomez.
C'est délicieux. D'accord, c'est très bon. J'ai goûté les deux. Pendant qu'elle parlait, j'ai goûté l'autre aussi.
C'est gentil, ça.
Et c'est très, très bon.
Et l'autre, c'est à quoi?
Marron,
ah, c'est carotte
bon.
Cake.
Carotte.
Carotte cake?
Carotte cake.
C'est ça, carotte cake?
Pas du tout. C'est un pain d'épices très, très doux.
D'accord.
Potiron?
Non, c'est vrai, c'est un carotte cake. J'ai dit pas, je me suis gouré tout à l'heure. Non, c'est un carotte
ouf.
Cake. Carotte cake. Je me suis gouré, excusez-moi.
Tu gagnes aussi quelque chose? Non?
Non, mais c'est non. Alors là, non. Si ce n'est nos félicitations et nos compliments. Guillaume Gomez, je me demande si vous n'avez pas le don d'ubiquité. Vous êtes partout, comme l'attestent quand même les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très actif et aussi très suivi. Oui. Hier, vous étiez, si j'ai bien suivi, avec Marc Vera et Pierre Hermé au Salon du Livre Gourmand de Périgueux. Jeudi, vous étiez au Touquet pour la finale du concours des meilleurs ouvriers de France. On vous voit en train de parrainer l'opération Chef Solidaire pour le SIDAction. On vous voit avec les soldats de la marine française. On peut pas dire que vous mouillez pas votre maillot. Vous ne restez pas dans votre tour d'ivoire, celle des cuisines de l'Élysée.
Non, on y passe énormément de temps et c'est vrai que le peu de temps libre que j'ai, j'essaye de le consacrer à éclairer toutes ces actions qui sont menées. Et vous savez, la notoriété qu'ont les chefs aujourd'hui, elle sert somme toute à rien à part flatter les égos. Donc si on peut, par notre présence, éclairer justement des actions comme toutes celles que vous venez de citer, voilà, nos militaires qui, eux, ont besoin aussi un petit peu de lumière pour valoriser le travail qu'ils font sur les opérations extérieures ou en France, l'opération Chef Solidaire de SIDAction, en effet, ou partout en France, à partir depuis hier, pendant une semaine, votre appétit change des vies. Et puis bien d'autres, le Téléthon, plein de belles actions qui sont menées un petit peu partout dans le monde. C'est vrai que j'essaye de donner un petit peu de ce temps pour
ça. Alors, lorsque j'ai annoncé on va déguster spécial avec Guillaume Gomez sur Twitter, sur Instagram, il y a eu pas mal de réactions, comme par exemple celle de Patrick qui s'étonne un peu, attention j'ouvre les guillemets, je m'aperçois que le chef cuistot du roi Manu n'est jamais dans sa cuisine.
Ah bah écoutez, très bien.
Vous cuisinez quand à l'Élysée? C'est une question.
Je cuisine, vous voyez, j'y étais ce matin. Pour pouvoir venir ici à 10h, j'y étais ce matin. Je vais y retourner, j'ai demandé à quelle heure on terminait ici. Je vais y retourner, j'y serai demain matin très tôt. Je pars en déplacement en Argentine demain après-midi.
Et vous avez une brigade formidable, c'est ça qu'il faut répondre.
J'ai déjà une bonne brigade, oui. Mais non, un chef c'est dans sa cuisine. Et croyez-moi, déjà les gens pensent connaître nos vies quand ils nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, vous voyez seulement ce qu'on veut bien y mettre. Et vous avez pu suivre, j'ai un petit peu parlé de ça, mais quand on a fait par exemple toute l'itinérance avec le président, et c'est vrai que mon rôle c'est de nourrir le chef de l'État et de...
Vous évoquez la tournée d'Emmanuel Macron dans l'Est de la France.
Dans l'Est de la France.
Dans le cadre des commémorations
Je connais pas ce monsieur, comment vous avez dit son nom?
Oh, c'est Patrick.
Voilà,
bon,
Patrick.
Voilà, vous irez le retrouver sur les réseaux sociaux, mais il se posait
Je lui souhaite de travailler, avec autant de joie et que moi avec avec une si bonne équipe et d'avoir une carrière comme la mienne.
Pourquoi l'Argentine?
J'accompagne le président pour une tournée en Argentine où il y aura un G20. Il y avait une communauté française.
D'accord. Il y avait le déjeuner des maires aussi cette semaine.
Il y avait le dîner des maires, oui.
Le dîner.
2500 couverts au palais de l'Élysée.
Ah oui, quand même. Est-ce que l'information délivrée par Nicolas Demorand dans l'accroche de cette émission entre 92 et 95 000 repas par an à l'Élysée, c'est un chiffre...
C'est exact. Il a gagné un livre. Oui, c'est exact. Moi, ça va faire 21 ans que je suis au Palais de l'Élysée et on fait depuis 21 ans entre 90, 92 et 95 000 couverts par an. Mm-hmm. Alors, c'est une moyenne, c'est-à-dire que ça fait une fausse moyenne de 300 par jour. Vous évoquiez la journée avec les maires. Vous voyez, on a fait 2500 couverts, près de 3000 couverts ce jour-là. Mm-hmm. Vous pensez bien que voilà, ce sont des jours qui sont comme ça exceptionnels, mais auxquels il faut répondre. Lorsque, par exemple, l'année dernière, j'ai suivi le chef de l'État pour nos soldats à Barkhane. Nous avons fait le dîner de Noël des soldats au Niger. Il y avait 700 couverts. Donc vous voyez, les couverts varient en fonction de l'activité et de l'actualité.
Je crois même que c'est un de vos plus beaux souvenirs, un des dîners peut-être les plus insolites que vous avez été amené à organiser.
Oui, c'est la chance que me fait vivre cette place aussi dans cette maison. C'est ce qui fait que j'ai pas la carrière d'un autre chef. Et c'est pour ça que j'y suis très bien. Vous savez, moi je suis pas ni élu, ni fonctionnaire au Palais de l'Élysée. Donc j'y suis parce que je le souhaite et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de routine et que le travail me plaît. C'est vrai que cette opération avec nos militaires en opération extérieure sur leur terrain, dans des cuisines de campagne pour leur apporter un petit peu de joie et de réconfort, c'est le but ultime de notre métier. La cuisine, elle se fait pour l'autre. Pâtisserie également. Quand vous arrivez sur un théâtre d'opération où les soldats sont là depuis plusieurs mois et c'est leur repas de Noël, bah écoutez, vous leur apportez un petit peu de joie et de bonheur. Et c'est vrai que là, l'émotion, elle est palpable tout de suite. Et c'est ce qui fait qu'en effet, c'est de ma carrière l'un de mes plus beaux souvenirs de repas.
Le repas de Noël dernier, c'était à Niamey. À Niamey, absolument, au Niger, le 22 décembre. Le plus beau souvenir de déjeuner ou de dîner au service de la France, ça, je crois qu'il s'agit de COP21.
Oui, alors j'ai cette chance de vivre l'histoire au quotidien auprès des chefs de l'État que j'ai pu servir, et c'est vrai qu'on a énormément de déjeuners et de dîners qui sont par définition historiques, et celui de la COP21 qui était un moment fort était un moment important bien évidemment pour nous tous, mais également l'occasion de signer avec plusieurs camarades chefs, Christelle Brua, Frédéric Anton, Marc Vera,
six chefs étoilés,
de signer un repas, de travailler déjà tous ensemble et de signer un repas historique pour près de 180 chefs d'État.
Oui, 172 chefs d'État,
172
exactement.
172 chefs d'État, plus chefs de délégation.
C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, on ne se retrouve pas un jour parachuté, évidemment, au fourneau des cuisines de l'Élysée.
Non.
J'imagine que c'est le résultat d'un long processus. Vous connaissez quand même cette prestigieuse maison.
Oui.
Depuis 1997.
97, j'y suis arrivé par piston, grâce à Jacques Ledivellec, à qui je rends hommage dès que je peux.
Parce avec qui vous avez travaillé avant.
Avec qui j'ai travaillé pendant près de 3 ans. Et en fait, je suis arrivé à l'Élysée pour faire mon service militaire. Et à l'époque, il y avait c'est une époque ancienne hein, où il y avait encore le service militaire, où tous les jeunes qui travaillaient dans les 3 étoiles et les 2 étoiles étaient happés par le 1er régiment du train et allaient servir comme ça dans les administrations ou pour les généraux, les amiraux. Et du coup, Jacques Ledivellec, qui connaissait bien le palais de l'Élysée parce que le président Mitterrand venait manger toutes les semaines chez Ledivellec, Jacques Ledivellec me propose d'aller soit à Matignon, soit à l'Élysée pour faire mon service militaire. Et du coup, je choisis l'Élysée. Je rentre à l'Élysée le premier jour pour faire mon service militaire, accueilli par Joël Normand, qui était le chef de cuisine à l'époque, meilleur ouvrier de France. Et il y avait 3 cuisiniers qui étaient arrivés sous le général de Gaulle. Moi, je me dis, comment c'est possible de rester aussi longtemps dans une maison? J'avais 19 ans, je voulais parcourir le monde, je tenais plus en place, je venais de faire presque 3 ans dans une maison déjà, c'était énorme pour moi, et je me dis, eux, ils ont connu le général de Gaulle. Faut vous remettre, il y a plus de 20 ans, moi, ça me parlait, c'était en noir et blanc, tout ça, vous voyez, je me disais, comment, ils sont en couleur, ils sont devant moi, ils sont en couleur. Et du coup, vous voyez, bah, ça fait 21 ans parce qu'on a la chance, comme je vous l'ai dit, de vivre l'histoire et surtout de ne pas avoir, de routine dans le quotidien de ce qu'on fait.
Bon, il y a eu une petite étape très importante en 2004 quand même, qui a fait de vous non seulement un meilleur ouvrier de France, comme l'indique le col tricolore que vous portez dans votre très beau tablier, mais de surcroît, le plus jeune de l'histoire des MOF cuisiniers.
Le plus jeune de l'histoire.
Vous aviez quel âge?
Et j'avais 25 ans au moment de la compétition, et j'ai eu le titre à 25 ans, et ça m'a fait... Alors c'est vrai que... À force de raconter cette histoire, je me rends compte de la chance que ça a été, parce que si vous voulez, sur le moment, je suis dans la compétition, je fais des concours de cuisine, et ce sont les jurys sur les concours de cuisine qui me disent il serait temps que tu te présentes au titre de meilleur ouvrier de France. Bon, sur le même principe, je me dis bon, ça, ils débloquent un peu tous, parce que bon, meilleur ouvrier de France. J'avais l'idée de ce que devait être un meilleur ouvrier de France. Je ne pensais pas en avoir les compétences. Et après, ils m'ont vite fait comprendre que de toute façon, c'était pas moi de juger, mais aux membres du jury, plus de 50 personnes qui vous jurifient ce jour-là. Et donc, je me présente au titre de meilleur ouvrier de France. J'y croyais tellement pas qu'entre la demi-finale et la finale, j'étais sélectionné. Je représentais la France au Gualtiero Marchesi Awards à Milan. Je dois être le seul gars qui, entre une demi-finale et une finale de meilleur ouvrier de France, a fait un concours. Et par contre, j'étais déjà le plus jeune des 700 candidats en 2004. Et du coup, je me retrouve le plus jeune des finalistes et de surcroît le plus jeune des lauréats, avec cette chance également d'avoir comme président de classe à cette époque et pour la dernière fois Paul Bocuse et Joël Robuchon. Donc c'est Paul Bocuse et Joël Robuchon qui vous accueillent sur scène quand vous êtes cuisinier meilleur ouvrier de France et que voilà, vous avez la chance de rencontrer ces deux monstres sacrés. Et c'était le début d'une belle histoire entre nous trois, et c'est notamment les deux copréfaciers de mon livre. Et l'autre bel événement suite à ça, c'est que ça m'a permis déjà d'évoluer dans la brigade de l'Élysée, puisque Joël Normand me propose de passer numéro 3 des cuisines, et le président Jacques Chirac quelques mois ensuite me remet la médaille des meilleurs ouvriers de France au palais de l'Élysée devant tous les meilleurs ouvriers de France, tous métiers confondus. Je rappelle que les meilleurs ouvriers de France, c'est près de 200 métiers.
Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée.
Merci.
Impressionnant. Et en plus, le garçon se tient à un devoir de réserve. Vous pouvez le torturer.
On va essayer.
Il dit toujours, je ne parle jamais des goûts culinaires des présidents, du couple présidentiel. Ça, c'est tabou.
Non, c'est pas que c'est tabou. C'est pas que c'est top secret. C'est que c'est tout simplement pas mon rôle. Et vous pensez bien que si les présidents successifs m'accordent leur confiance, ainsi que leurs épouses depuis 21 ans, c'est bien parce que, un, je sais tenir ma langue. Et le peu de fois où je suis devant un micro, et j'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui, c'est pour parler du métier, pour parler des valeurs qui me sont chères, de la transmission et non pas des présidents de la République.
Évidemment.
Il y a des gens qui font ça très bien.
Bien sûr. Et sinon, il aime toujours les cordons bleus ou pas?
Voilà. Vous lui demanderez.
La chronique cuisine d'Elvira Masson.
On va déguster.
Vous aviez une question à nous poser, Elvira.
Oui. Est-ce que vous savez qui est Carme Ruscalleda?
Oui. Je gagne.
Ah, lui, c'est Jérôme.
Moi, j'ai ma petite idée aussi. Il faut passer au-dessus des Pyrénées.
C'est vrai.
Mais Carme. On n'en sait pas
Carme.
Tellement plus.
Carme, pas Carmen.
Carme. Non, Carme Ruscalleda. Elle est la seule femme chef espagnole à détenir depuis 2006 trois étoiles au guide Michelin pour son restaurant Sant Pau à Sant Pol des Mars en Catalogne. Restaurant qu'elle vient de fermer ou qu'elle est sur le point de fermer d'ailleurs. Elle a 7 étoiles en tout, car elle a d'autres établissements, dont un à Tokyo. Elle est donc non seulement chef et businesswoman. Comment expliquer néanmoins, même si Guillaume, vous connaissez son nom,
oui,
que ce soit sans doute l'un des noms les moins connus de tous les triples étoilés européens?
C'est vrai, on n'en entend quasiment jamais parler, il faut bien le reconnaître.
Moi, je la connaissais pas.
Hélas.
Bah, on a entendu surtout parler d'elle parce qu'elle a annoncé qu'elle fermait son restaurant.
Exactement.
Voilà, c'est ça le comble.
Alors, il y a un début d'explication qui est donné dans le livre dont je vais vous présenter l'intérêt dans un instant. Il est donné par Claire Smith. Elle est irlandaise, elle a un restaurant à Londres qui s'appelle Core. Est-ce que vous connaissez ce restaurant et cette chef? Non plus, hein.
Moi, je la connais de réputation, mais en même temps, c'est mon métier.
Elle a reçu le prix en 2018 de la meilleure femme chef du monde au World 50 Best Awards, qui est un classement annuel des meilleurs restaurants du monde. Quand on pose la question à Claire Smith de la situation des femmes dans la gastronomie, elle répond ceci. Je pense que si vous êtes bonne dans ce que vous faites, vous méritez votre place et on doit vous la donner. Je ne crois pas qu'on doit vous donner une place juste parce que vous êtes une femme. Je pense aussi que les femmes ne savent pas faire leur promotion aussi bien que les hommes et qu'elles n'ont pas autant l'esprit de compétition que les hommes. Je pense à certaines grandes chefs que beaucoup ne connaissent pas, comme Carme Ruscalleda, on y vient. Elle ne fait pas beaucoup d'autopromo, mais c'est fou qu'on ne parle pas plus d'elle. Pourquoi on ne parle pas plus d'elle, au pluriel? C'est l'une des nombreuses questions que soulève Vehrehan Frediani dans ce livre imposant à la hauteur du sujet qui s'appelle...
Que brandit Guillaume Gomez à l'instant.
Le livre s'appelle Elle cuisine, c'est publié chez Hachette Cuisine.
Et elle, évidemment, au pluriel avec
évidemment, les femmes, les cuisinières. Vehrehan Frediani, ce nom vous dit peut-être quelque chose. On a pas mal entendu parler d'elle il y a 2 ans et son documentaire à la recherche des femmes chefs. Son documentaire donnait la parole aux chefs, aux cuisinières, pour qu'on les voit et qu'on les entende. Le postulat n'était pas du tout de dire qu'elles n'étaient pas ou ne sont pas assez nombreuses, mais pas assez visibles. 2 ans plus tard, la donne a un petit peu changé, les femmes se sont encore un petit peu plus affirmées, ce livre en est le témoin, c'est un livre, et je pèse mes mots, formidable, mais formidable, ouais, passionnant, par la richesse et l'intérêt absolu que présente la parole des femmes chefs qui s'y livrent, leur émotion, leur engagement, sans langue de bois, le franc-parler de toutes ces femmes. On apprend notamment que la solidarité entre femmes chefs n'existe pas forcément, que la plupart de ces chefs sont assez irrités à l'idée de recevoir des prix de la femme chef de l'année, à quand d'ailleurs le prix de l'homme chef de l'année, ce serait pas mal. Des témoignages, des entretiens croisés, des recettes emblématiques. L'oursin à la purée de haricots et d'achis de Carolina Bazon à Santiago du Chili. L'œuf à la vapeur, gingembre, oignon vert de Mei Chao de Little Bao à Hong Kong. Vous connaissez Mei Chao,
François? Oui, bien sûr. Allé, non? J'ai même dégusté ces Bao à Hong Kong, absolument.
Mei Chao, qui est une star de la restauration à Hong Kong, nous dit d'ailleurs « Parfois, en tant que femme, vous êtes votre pire ennemi. Vous prenez tout en considération. Vous voulez faire plaisir à tout le monde. » C'est un peu le problème des femmes, ça. À la fin de son propos introductif, je regarde Jérôme.
J'ai rien dit.
Vérane Frediani écrit « J'espère que ces cuisinières vous permettront d'avoir davantage confiance en vous, en vos rêves, en vos envies. En tout cas, elles ont eu cet effet sur moi, je pense que vous l'avez compris. Et sur vous aussi, je vous le souhaite absolument. » Elle cuisine chez Hachette Cuisine. Vérane Frediani, c'est
bravo,
un livre,
Elvira, ouais.
Un livre génial,
hautement recommandable. Qui fait évidemment avancer la cause, et je peux vous assurer que dans ces 400 et quelques pages, il y en a un peu moins, il y en a 250, il y en a du talent, et c'est du lourd. Stéphanie Lequelec, Elena Arzac, Anne-Sophie Pic, Anto Cocagne, Elisabeth Bourgeois et quelques autres. Un jour peut-être une femme chef au fourneau de l'Élysée.
Pourquoi pas, bien sûr. Vous savez, c'est un combat en fait qui est pas mené par les chefs, ni par les femmes chefs, ni par les hommes chefs, parce que pour nous, il y a pas de sujet. On en parle souvent avec Anne-Sophie. Elle fait pas une cuisine féminine et je fais pas une cuisine masculine. Il y a que deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Après, vous parliez de la communication. Il y a des outils pour ça. Les hommes chefs sont accompagnés par des communicants. Pourquoi, enfin, les femmes aussi pourraient très bien l'être. Certaines le sont. Voilà.
Il y a des femmes dans votre brigade ou pas?
Il y a une femme dans ma brigade.
Sur combien de personnes?
Assez peu, sur 30. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi.
J'étais. Il y a une sommelière.
J'étais le chef.
Voilà,
j'étais
injoignable, le chef. Mais il y a une sommelière.
J'étais le chef qui a décidé.
Ouais, injoignable.
Ah bon, je vais pas arriver à la joindre, moi.
Bon, on n'arrive pas à la joindre. Impossible. Pardon.
Elle est injoignable. J'ai été le chef qui a décidé d'embaucher la première femme au Palais de l'Élysée. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on est dans une ancienne enceinte militaire et que tout simplement pour des niveaux pratiques, on n'a pas aujourd'hui les vestiaires et les sanitaires pour ça. Dans la refonte des cuisines, ce qui sera prévu, il y aura des vestiaires féminins et on pourra accueillir plus de femmes dans la cuisine.
Les talents féminins sont de plus en plus représentés, Philippe Contissini, non seulement dans votre univers à vous, car oui. Je sais que vous travaillez beaucoup avec les femmes et vous avez toujours aimé ça. Mmh. Et en même temps, dans le métier de façon générale, des signatures pâtissières.
Il y en a de plus en plus, hein, en pâtisserie, et heureusement d'ailleurs. Alors, il y en a évidemment beaucoup moins que les hommes pour l'instant, mais il y en a tellement qui arrivent que d'ici 5, 6, 7, 8 ans, je pense que ça va cartonner sec, là.
Absolument.
Et tant mieux. Tant mieux, c'est pas qu'elles aient plus ou moins de talent, c'est simplement que, puis, pourquoi elles se font moins connaître, ou peut-être qu'elles sont un peu moins con que nous, les hommes, et puis qu'elles ont un peu moins d'ego à faire valoir, et tant mieux d'ailleurs. Et en tout cas, il y a une chef mexicaine à New York qui a un parcours absolument hallucinant, qui fait son plat à la Bococoa ou un truc.
Ah oui, c'est...
Tu vois qui je veux dire?
Oui, elle a il faut que je mette mes neurones en place, mais je vois.
Mais elle est encore aujourd'hui, elle a pas de papier, hein, alors qu'elle est un des 10 meilleurs restaurants des États-Unis.
Dans un instant, Philippe Contessini, vous allez nous faire déguster avec non seulement des recettes, mais également d'autres créations pâtissières que vous allez décrypter. Un deuxième livre à gagner, ça vous tente?
Oui.
Bon, Elvira, vous êtes prête?
Je suis prête.
Allons-y.
Question histoire. À l'occasion de quel mariage royal la recette du macaron de Saint-Jean-de-Luz a-t-elle été mise au point en 1660? Là, je vous en dis trop, à mon avis. Et vous êtes bien sûr, on va déguster et non pas au jeu des 1000 euros.
Et vous reposez la question, Elvira.
À l'occasion de quel mariage royal la recette du macaron de Saint-Jean-de-Luz a-t-elle été mise au point?
Là, c'est le livre.
En 1660.
C'est le livre de Philippe Contissini dont on va parler dans un instant qui va être gagné par une personne dans le public, deux personnes à la maison, à condition d'envoyer la bonne réponse et votre adresse postale à notre mail. On va déguster @radiofrance.com. C'est un chanteur américain qui fait du folk et du blues. Il est originaire du Wisconsin et il est grand amateur, même obsédé, de fromage français. William Z. Vilain.
Something beautiful. Something something
Radio France, faites le livre et on va déguster en direct depuis le mythique studio 104 devant un public chaleureux. Merci beaucoup d'être là. Alors la réponse évidemment à la question que repose Elvira, on espère que quelqu'un l'a trouvée dans le public. Elvira, c'était ?
À l'occasion de quel mariage royal la recette du macaron de Saint-Jean-de-Luz a-t-elle été mise au point en 1660 ?
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Marie-Paul.
Bonjour Marie-Paul.
Bonjour. C'est Marie-Thérèse d'Espagne qui s'est mariée avec Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz.
Vous nous donnez même plus que la réponse, tout le contexte historique, le nom de l'épouse, etc.
Alors c'est Marie-Thérèse.
Félicitations.
Ah. Non, mais c'est la bonne réponse.
Marie-Thérèse, oui.
C'est bien Louis XIV et c'est Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne.
Oui, excusez-moi.
D'accord, donc elle a perdu.
C'est quand même la bonne réponse. À 99% la bonne réponse.
Non, vous l'avez quand même, ce Conticini en live, 50 recettes et vidéos, first edition. À chaque fois que Philippe Conticini, ce monstre sacré du sucré, fait un livre, c'est un succès. Comment vous faites ?
Je sais pas. Moi, comment je fais ce que je ressens et comme d'habitude, quoi. Je suis un mec libre, alors je fais ce que je veux. Pour l'instant, les gens aiment bien, donc voilà.
Évidemment, vous êtes l'un des plus grands pâtissiers de votre génération, ça on le sait, vous avez même une réputation internationale. J'étais en voyage aux États-Unis, quand on parle de sucré, c'est avec Pierre Hermé, on peut le dire, les deux noms qui reviennent le plus concernant la pâtisserie française. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vous admirent dans le monde entier, qui vont attraper vos techniques et qui essayent justement, ou qui vous suivent carrément dans ce que vous appelez vos lives. Ouh là là. Pour ceux qui ne sont pas très au point sur les dispositifs technologiques, racontez-nous ce que vous faites. C'est une démarche tout à fait singulière que vous avez inaugurée il y a quelques années.
Oui, il y a 2 ans et demi à peu près. Oui. En fait, c'est une personne qui travaille avec moi, Séverine, qui m'a dit, tiens, voilà, cette semaine, il y a Facebook qui vient de sortir des lives. Elle m'a dit, peut-être qu'on pourrait y... Hop, j'ai dit, non, on commence demain. Et dès le lendemain, j'annonçais que le mercredi d'après, j'allais faire un live et c'est parti. Et je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, en fait. Et avant que Facebook change ses algorithmes, il y a un an, j'étais presque à 1 million de vues.
Ce qui est stupéfiant.
Et aujourd'hui, ça dépend, 100 000, 150, 180 000, enfin voilà.
Il faut imaginer des internautes qui sont en live, donc en direct, comme son nom l'indique, devant leur écran,
absolument,
en train de regarder votre démonstration
oui,
culinaire.
Oui, c'est ça, absolument.
Et l'intérêt de faire un livre, alors ?
Bah, en fait, l'intérêt, c'est à la base, hein, c'est plus éditrice que moi, mmh. et qui m'a proposé de faire ce livre-là. Et en fait,
non, mais vous allez voir, il y a quand même une très belle idée dans ce livre.
Oui, la base m'intéressait pas trop, puisqu'on peut les retrouver sur YouTube ou sur Facebook. Mais en fait, elle m'a tout de suite expliqué qu'on mettait des QR codes dans le livre. Et donc, non seulement il y a la photo, la recette, mais tac, on peut se retrouver immédiatement sur YouTube en même temps, et on voit ma bouille et surtout l'explication. Tout en détail de tout ce que je peux pas expliquer dans un livre, évidemment.
Et voilà. En même temps, quand vous êtes en cuisine, avec des photos aussi appétissantes et le déroulé très précis de la recette, oui. c'est quand même plus pratique lorsque vous êtes en train de réaliser cette recette sucrée. Il y a le Paris-Brest, évidemment, qui oui. est un de vos grands desserts signatures.
Obligatoire.
Avec son cœur coulant au praliné, le Saint-Honoré à la vanille, qui est vraiment le gâteau que vous avez contribué à remettre au goût du jour, Philippe.
Je me souviens qui a goûté ce gâteau en premier, la première personne qui l'a goûté.
Bah oui, évidemment.
Ismar, c'est lui.
Ouais. Non, c'est vrai, j'étais le tout premier. C'est vrai. Ah, oui. Philippe Bondissini m'a appelé un jour et il me dit, j'ai fait quelque chose. Et c'est vrai que c'est une recette là qui, pour le coup, est peut-être l'une des plus copiées dans le monde en termes de pâtisserie, le fameux Paris-Brest de Philippe Conticini. Par contre, je suis moins au fait du... le nom me fait... Allez, je laisse à Elvira le soin de la...
Le cacounet.
Le cacounet.
Cacounet.
Un petit cacounet. De quoi s'agit-il?
Le cacounet. C'est une recette très simple, en fait, que j'ai faillie, je sais pas, il y a un an, peut-être un an et demi, mais qui a pris... Je vais vous l'expliquer, c'est très simple, il y a 5 produits en fait, mais il y a 4 produits principaux, c'est du chocolat, de la farine, des œufs et du sucre. Mm-hmm. Globalement, je vous donne la recette vite fait là.
Bah oui, évidemment.
Je l'ai pas en tête, j'ai devant moi évidemment.
Mais elle est très simple.
Elle est extrêmement simple, extrêmement rapide. 100 grammes de chocolat noir. Moi, je mets du 72, mais après on met ce qu'on veut, le chocolat qu'on aime évidemment. Avec un peu de chocolat au lait, 50 grammes. Mm-hmm. On met 115 grammes de beurre doux, salé si on veut. 120 grammes d'œufs. Je pèse toujours les œufs, c'est important de bien peser les œufs battus en omelette. 55 grammes de sucre semoule ou sucre roux.
Si à la maison, il faut peser les œufs aussi?
Pardon?
À la maison, il faut peser les œufs?
Non, c'est pas, il faut peser. J'ai dit que moi, je les pesais. Les gens font ce qu'ils veulent. Simplement, on n'a pas toujours des œufs à 50 grammes.
C'est toujours le problème. Il y a des œufs qui sont plus ou moins gros.
Et c'est pas parce que la pâtisserie est précise. C'est parce que moi, je ressens quelque chose, une sensation, une structure, une densité que je veux faire ressentir aux autres. Et pour ça, la balance qui est mon bras armé a besoin de préciser ce que moi, je ressens. Et donc, je continue. 155 grammes de sucre roux ou semoule. 45 grammes de farine type 55. Enfin, une farine normale. 15 grammes de farine de châtaigne. Voilà, une petite pincée de fleur de sel, et roule ma poule, c'est fait. On fait fondre le chocolat, le beurre, on mélange les œufs, le sucre, la farine, ou la farine toute seule si on peut pas de farine de châtaigne. Et puis voilà, ensuite on mélange les deux, on met ça dans un moule à cake, vous faites des petits si vous voulez, hein, de 20 sur 8, 20 de long, 8 de hauteur, 8 de large en général, et on fait cuire ça 25 minutes à 160, sachant que 160, c'était le four ménager dans lequel moi j'ai fait le cacounet, ça peut être 165, 170, ça peut être 20 minutes au lieu de 25, chacun un four différent.
C'est ça.
Voilà.
Et le cacounet, c'est une réduction d'un joli cake avec un appareil à cake en fait.
Ah putain, j'ai fait une photo, mais c'est bon, elle est pas top la photo, mais c'est à mourir ce truc-là. Regarde.
Et évidemment, vous nous l'avez pas apporté puisque vous étiez au Japon.
En fait, c'est au labo, ils l'ont jamais fait. C'est moi qui le fais ce truc-là.
Et
c'est hyper fondant au milieu.
Ouais, ça a l'air très très bien ça. Oui.
C'est fondant, c'est pas coulant, hein.
Oui.
C'est complètement, c'est du délire, tout là. Il y a même des clubs qui se sont montés.
C'est incroyable.
À Paris,
il y a un phénomène
Londres,
autour de ce gâteau et qui est pourtant d'une simplicité biblique. C'est vraiment.
C'est hyper simple.
La recette, on l'a vu, on la met d'ailleurs en ligne sur le site internet franceinter.fr à la page
lives,
on va déguster. Ça tient en quelques lignes.
Oui, mais pour mes lives, François Régis, moi, ce que je veux, c'est, je partage pas avec des professionnels, je partage avec les gens, avec vous. Donc, je veux faire des recettes simples, une journée par semaine. Laetitia qui bosse avec moi travaille sur une recette que moi, je lui ai donné à faire. Et la seule contrainte qu'elle ait, c'est que ce soit bon comme de la pâte à tartiner.
C'est voilà. Ça.
Celle qu'on aime et celle qu'on mangeait petit. Et donc, c'est des recettes très simples et toujours très bonnes.
Voilà. Vous vous amusez beaucoup dans la dénomination de vos recettes. Il y a aussi le chou-fleur.
Ah oui, chou-fleur coco. Oui, c'est à base de pâte à choux, en fait. J'ai voulu refaire... pâte à choux, c'est une pâte à modeler, en fait. On fait ce qu'on veut avec. Et j'ai voulu refaire le gâteau qu'on appelait rocher coco. Mm-hmm. Enfin, ça avait un autre nom à l'époque, mais rocher coco. Et voilà, à travers la structure d'une pâte à choux qui, en même temps, devient un gâteau. Et chou-fleur coco. C'est le premier live, d'ailleurs. Tout premier live.
Vous connaissez Guillaume Gomez ou pas, les créations de Philippe Conticini? Vous les goûtez régulièrement?
Alors, je suis un grand fan du chef, de l'homme avant tout, il le sait, je lui ai déjà dit, je le suis sur les réseaux et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et bien sûr de goûter ses pâtisseries avant la pâtisserie des rêves et maintenant chez lui. Donc,
ce qu'il y a de formidable chez Philippe Conticini, c'est que c'est à la fois
pâtisserie vraiment high-tech, d'une sophistication extrême dans l'architecture. On a rarement vu créateur aussi précis, justement, dans l'alliance des goûts et les combinaisons, et puis surtout les textures, les consistances. Mais en même temps, ce qui fait de vous une grande star auprès du grand public, c'est comme avec le cacounet ou quelques autres recettes, vous êtes vraiment capable de faire très simple et prodigieusement bon. Une autre recette, je vous ai demandé, vraiment trois phrases. Une recette à faire à la maison.
La
très
pression,
simple.
Trois phrases.
Oui.
Bon, je vais essayer 3-4. Hein.
Oui.
La première, c'est il faut un peu de maïs à popcorn. Voilà, 3 cuillères à soupe. Il faut une poire coupée en tout petit dés. Une poire, celle qu'on aime, hein, bien sûr, crue, bien égouttée avec dans un torchon. Un peu d'huile d'olive. Mm-hmm. On fait partir le popcorn. Et on a, si on peut faire un petit caramel en parallèle, un petit caramel qu'on cuit avec un petit peu de beurre, une goutte de crème, voilà, c'est tout.
La pro du caramel, elle est à ma gauche, hein.
Comment?
Qu'il rate à peu près tout.
Je rate un caramel sur le
dos. Non,
mais
on met pas ce caramel, on met du sucre dedans, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on s'en fout. Du moment que c'est bon, voilà. Mmh. Et donc, le pop-corn va commencer à s'ouvrir. Là, on balance les poires, on remue la casserole, évidemment, et quand le pop-corn est, comment on dit, ouvert, éclaté. Bah, les poires, elles sont pas cuites, mais elles sont légèrement colorées. On sort ça, on mélange avec le caramel qu'on a fait décuire, sinon on met du sucre, et puis on attend que ce soit un peu froid, et tout se mélange, en fait. Tout se colle, et c'est vachement bon avec un peu de fleur de sel, popcorn, poire, fleur de sel, un peu d'huile d'olive, c'est simple.
Et la fleur de sel qui est très importante dans votre travail, hein, et qui fait saliver en fin de bouche, et qui du coup ajoute énormément de
goût. Qui ramène en fait vraiment, vraiment la longueur du goût en bouche. Mm.
Vous avez soif ou pas?
J'ai soif?
Oui.
Ah oui, j'ai soif. Moi, je boirais bien un café, là, ouais.
Et ben.
Ça, c'est moi mon truc.
Alors. Figurez-vous que Philippe Conticini a soif. Et il y a une question pour faire gagner un livre. C'est le troisième. Et c'est les livres. Les gros livres très copieux de Guillaume Gomez. Cuisine, leçons en pas à pas. C'est un livre impressionnant. Au chêne, déjà un ouvrage de référence puisque toutes les recettes, il y en a 78, je crois, sont expliquées pas à pas.
Plus de 4000 photos.
À l'appui de 4000 photos. C'est absolument impressionnant. Et la version pour les enfants. Je vous invite à poser votre question. Jérôme Gagnez.
Quelle est la commune où se trouve le Grand Cru, la Romanée-Conti?
Le nom de la commune. Où se trouve le Grand Cru de la Romanée-Conti. Dès qu'il y a une réponse, on la prend dans ce grand studio 104 et vous avez même le temps en attendant de nous faire découvrir vos bouteilles.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme.
Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une caravane et de vendanges. Alors je voudrais que les choses soient claires, hein, il n'y avait rien de cochon là-dedans. Simplement, le début d'une histoire et d'une très belle histoire. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre qui m'a donné l'envie de vous parler d'un vin que je connaissais. Le livre, c'est le livre de Sylvie Augereau, Le vin par ceux qui le font, pour ceux qui le boivent.
Qui intervient régulièrement dans cette émission.
Alors, c'est pas une commande de la direction d'Inter en disant « Sylvie, faut l'aider, faut parler de son bouquin ». Ce bouquin est une tuerie. C'est absolument génial. C'est un bouquin qui est passionnant, ça se lit un verre à la main tranquillement, enfin un verre grand. C'est une chronique vigneronne aussi espiègle que parfaitement documentée. On partage page après page les peines, les doutes, les joies, les exaltations des vignerons tout au long de l'année dans leur travail. C'est vraiment un livre formidable pour découvrir le vin, découvrir le travail du vigneron. Et Sylvie... quand elle a commencé à s'intéresser au vin, elle est partie en 2001, elle a pris une caravane, elle est partie et elle a fait le tour de France pour faire les vendanges. Ça a duré 3 mois, ça a commencé dans le Roussillon au mois d'août, ça s'est terminé chez Marc Angéli au mois de novembre pour faire des layons et des sélections de Grenoble de layons. Et elle avait rencontré un gars qui s'occupait un peu de temps libre, qui savait pas très bien quoi faire, qui s'appelle Nicolas Guignon. Et puis bah Nicolas Guignon, il dit bah moi j'irais bien avec toi faire les vendanges parce que je connais pas, puis ça m'intéresse de découvrir. Et donc ils partent ensemble. Et c'est le point de départ de la passion de Nicolas pour le vin et de son engagement dans le vin. Il va très rapidement après faire un petit apprentissage à Saumur puisqu'il est saumurois d'origine. Et puis en 2003, il monte un domaine qui s'appelle le vignoble du Loup Blanc. Nicolas et Karine Guignon. On est à Bise-Minervois, donc vraiment en plein cœur du Languedoc. Et voilà un domaine que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, parce que le tropisme ligérien de Nicolas, c'est-à-dire il aime la fraîcheur, il aime les vins digestes, il aime les vins léger, c'est pas le terme. Encore une fois, la fraîcheur et la digestibilité dans les vins, eh ben, il va rechercher ça dans ses propres vins, mais à Minervois.
Alors,
à
et
Minervois,
dans un terroir sudiste où il y a beaucoup, pour le coup beaucoup de soleil.
Et dans un exactement.
Dans la Loire.
Alors, il est servi par le fait qu'il est à 200-300 mètres d'altitude. Il est servi par le fait qu'il a un patrimoine de vignes quand il reprend ce petit domaine avec des vignes, notamment par exemple, on va parler d'un blanc là avec du Terrebourel. Le Terrebourel, c'est un cépage qui est quasiment en voie de disparition et c'est bien dommage parce que bien souvent dans les appellations, un certain nombre de vignerons préfèrent la médiocrité à la difficulté et donc ils vont planter du Sauvignon, du Chardonnay qui a strictement rien à foutre dans le Languedoc et donc bah ça fait des vins qui sont un peu rondouillards, sans grand intérêt. Là, Nicolas, avec d'autres vignerons, cherche un chemin de crête qui lui permet de produire le blanc que vous avez dans vos verres, qui est un très joli blanc, fin, élégant, 50% de Terrebourel, un petit peu de Carignan blanc, du Grenache, blanc et gris, et on a quelque chose qui est salin, qui est frais, les raisins sont mûrs malgré tout, parce que le Terrebourel, c'est magique, mais ça fait des vins. Ça fait des raisins mûrs avec des degrés d'alcool qui sont pas trop élevés. Donc voilà un vin du Languedoc qui nous désarçonne par sa fraîcheur et sa digestibilité. Et puis, à côté de ça, il fait un rouge de facture plus traditionnelle. Mais là encore, il cherche la fraîcheur, il cherche l'élégance du vin. On va le goûter tout de suite d'ailleurs.
Oula, pas mal. Ah. Le bruit de bouchon, sans trucage.
François, je vous laisse servir un petit coup à tout le monde, en particulier à Guillaume qui a très soif, je crois.
Eh, formidable cette émission, on mange, on boit, j'adore.
Pour de vrai.
Et donc voilà un vin qui est lui Carignan, Grenache, Syrah, mais il y a 50% de Carignan, donc c'est encore une fois un cépage aussi qu'on a eu tendance un peu à délaisser. Alors il y avait une raison simple, on a délaissé les Carignan parce que on avait planté des clones, enfin des variétés de Carignan qui étaient très 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 prolixes, qui donnaient énormément de vin, des rendements très très élevés, ça faisait du très mauvais vin, ça faisait le bon vieux Languedoc parfaitement imbuvable qu'on a tous connu dans les années 70 et 80, et il a fallu attendre d'avoir des vieilles vignes et puis avoir aussi parfois des Carignans plus intéressants qui soient replantés pour redécouvrir ce très beau cépage. C'est un domaine qui est cultivé en bio et en biodynamie, c'est un domaine qui fait des très beaux vins, toujours dans l'envie de faire transparaître la finesse et l'élégance du très beau terroir de Minervois. Donc ça s'appelle le vignoble du Loup Blanc, c'est Nicolas et Karine Guignon, et les deux vins que nous dégustons, c'est le Régal Blanc 2017 à 14 euros au domaine, le Régal Rouge 2017 à 12 euros au domaine. Ce sont des très beaux vins, le Régal Blanc, j'en ai en cave, je l'ai fait vieillir, ça vieillit bien, ça vieillit 10 ans au moins. À 14 euros, c'est absolument un cadeau.
C'est un budget. Alors c'est une somme, hein, 14 euros, c'est toujours pareil. On a un débat, dans l'absolu, ça peut représenter quelque chose d'important, 14 euros, mais pour la grâce.
Pour la grâce et
l'émotion
que suscite
ces vins-là, c'est assez exceptionnel.
Voilà, il y a un moment après, il faut faire aussi son choix. Soit on préfère acheter une PSP ou je sais pas quoi, une connerie de jeu, ou on préfère acheter.
Oula, j'y étais pas du tout. Je me dis PSP, il parle de quel vin de supermarché. Non, il parle de la console de ses enfants.
Enfin, un jeu à la con. Oui. Bah, plutôt que d'acheter un jeu à la con, on achète des bonnes bouteilles de vin et honnêtement, on se fait bien plus plaisir.
Est-ce que vous savez s'il est à la carte de l'Élysée?
Ça, ma fille. Hein.
Oui.
Non. Alors, écoutez. Alors, j'aurais bien voulu pouvoir vous le dire, mais malheureusement, quand on appelle l'Élysée, ça répond pas. Et j'ai l'impression que la sommelière voulait pas me parler. Je sais pas. Je n'ai rien fait. Je la connaissais pas.
Ah oui.
Mais bon. Donc, j'ai essayé de l'avoir au téléphone. J'ai pas réussi.
D'accord.
On ne sait pas.
Reposez la question. Dont on attend la réponse évidemment concernant cette fameuse appellation de Romanée-Conti.
Quelle est la commune où est situé le grand cru de la Romanée-Conti?
Comment vous appelez-vous?
Bonjour, je m'appelle Paul.
Et vous, ce que vous avez la réponse, Paul?
Oui, je crois que la réponse est dans la question.
En partie, oui.
Attention, hein.
C'est le village de Vaune-Romanée.
Bravo.
Bravo.
Excellent.
Alors,
c'est gagné pour vous.
Très rapide. Un petit mot très rapide. C'est l'occasion
de
rendre hommage à un monsieur qui s'appelle Henri-Frédéric Roch, qui vient de mourir, qui était le co-gérant du domaine de la Romanée-Conti. Il vient de mourir. C'était un grand monsieur du vin. Et donc voilà, hommage et RIP, monsieur Frédéric.
Hommage lui soit rendu. Cuisine, leçon en pas à pas. Et oui, on arrive déjà à la fin de cette émission avec une recette que vous aviez prévu de nous expliquer, mais nos auditeurs vont la retrouver en ligne. Les pommes moulées Élysée, c'est superbe. Ça ressemble un peu à des pommes ananas.
Exactement.
C'est pas si compliqué à faire avec votre livre, car tout est expliqué pas à pas.
Tout est expliqué, c'est très économique. Ce ne sont que des pommes de terre, du fromage, du beurre, du sel et du poivre. Et tout est expliqué pour réussir la recette. Vous pouvez pas la rater, sauf si vous ratez une page.
Et vous aimez toujours autant les chocolatines ou pas?
J'aime toujours le pain au chocolat. J'étais à Périgueux hier, ils m'ont fait goûter les chocolatines. Je dois vous avouer qu'elles sont aussi très bonnes.
Il y a une petite polémique sur les réseaux
Vive
sociaux.
Le pain au chocolat.
On dit chocolatine au sud, on dit pain au chocolat.
Non, pas dans le sud, dans quelques villes du sud.
Oui,
seulement.
C'est ça. Et Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée à Franché, ce sera pain au chocolat. Merci beaucoup, Philippe.
Plaisir.
Comptez signer en live 50 recettes et vidéos chez First Edition, un très joli livre qu'on a gagné dans cette salle et également derrière son poste de radio à 15h dans ce même studio. Vincent Josse vous propose un grand atelier exceptionnel, un atelier fantôme, celui d'Alain Bachung. La semaine prochaine, on envoie la sauce avec le chef ouvrier, meilleur ouvrier de France, Éric Trochon, et on fait même un tour de France gourmand avec le jeune cuisinier Sébastien Formal. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.